se constituer un patrimoine en acquérant un bien immobilier avec Cogedim.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième édition de Live Invest, le rendez-vous des épargnants. Alors vraiment désolé, on a eu, comme vous avez pu le constater, des petits problèmes techniques. Bon, en fait, ce sont des gros problèmes techniques, mais on va s'adapter et c'est ça le charme du direct, comme dirait l'autre. Donc merci d'avoir patienté. Je vais en profiter dans un premier temps pour vous rappeler le programme de la semaine, une semaine assez chargé. Comme vous le savez, tous les matins, nous allons nous pencher sur un projet de vie et voir comment le financer. Donc on commence aujourd'hui par comment se constituer un patrimoine. Demain, donc le mardi 23 mars, ça sera comment réduire ses impôts. Mercredi 24 mars, comment préparer sa retraite. Jeudi 25 mars, comment organiser sa transmission. Et le vendredi 26 mars, comment soutenir l'économie réelle. Alors, on devait au départ accueillir Julien Serraqui, président de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, mais décidément, c'est une matinée assez particulière, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Lassalle, directeur commercial France de Cogedim. Et Paul, on va parler de l'acquisition de la résidence principale. On va parler de la pierre qui est vraiment le Graal des Français. On se rend compte dans toutes les études que nos compatriotes sont très attachés à l'immobilier. Ils y consacrent une grande partie de leur épargne d'ailleurs. Et donc Paul, effectivement, on va donner des conseils à nos chers internautes. Alors, dans un premier temps, Paul, je l'ai dit, vous travaillez à la Cogedim. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Cogedim, en sachant que c'est vrai qu'on pense à la promotion immobilière, mais je crois qu'il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Bonjour, Jean-Philippe, d'abord. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos studios. Cogedim, qui est Cogedim? Alors déjà, Cogedim, c'est un acteur incontournable dans le paysage immobilier français depuis 1963. Cogedim est une société qui a construit plus d'une dizaine de milliers de logements. On a dépassé les 100 000, ça fait quelques années maintenant. Et Cogedim s'appuie sur quelque chose de très particulier, c'est-à-dire une signature. Cogedim, sa signature, c'est quoi? C'est la qualité, l'innovation, la relation client, tout ça sous le socle du produit avec une identité architecturale très particulière. Au fur et à mesure des années, maintenant environ 60 ans que Cogedim existe, en 2021, on a pu arborer fièrement le fait d'être le premier développeur immobilier de France. Et comme vous l'avez dit précédemment, il n'y a pas que le logement chez Cogedim. Il y a alors le logement numéro un, mais bien sûr le bureau, les commerces. On s'est même diversifié sur la logistique, sur l'hôtellerie et bien sûr la résidence de service, puisque du coup, on a une marque qui est en train d'émerger, qui s'appelle Cogedim Club et qui gère toutes nos résidences seniors. Alors, l'ambition de Cogedim aujourd'hui, elle est très simple. Elle reste humble, mais elle est très simple. C'est créer la ville de demain. Donc, comme je vous disais...
C'est simple, c'est très ambitieux quand même.
C'est très, très ambitieux. Mais il y a une stratégie assez affichée. Je vous parlais du produit. Le socle de la stratégie de Cogedim, c'est le produit. Voilà, donc ça, c'est le numéro un. Et sur ce socle, il y a deux piliers. D'un côté, vous avez le client et de l'autre côté, vous avez les collaborateurs. Ça s'articule comment? Cogedim vient d'être élu encore une nouvelle fois top employer de l'année 2021. Ça veut dire que du coup, c'est une société bien-être pour les collaborateurs. Bon, ça, plusieurs promoteurs peuvent l'avoir. Donc, c'est bien, mais le top du top, c'est autour des clients, puisque Cogedim a été élu pour la 4e année consécutive. C'est élu service client de l'année. Et ça, on est le seul promoteur à l'avoir eu. Donc, du coup, comme je vous disais, le socle, les deux piliers, le triptyque gagnant de la société Cogedim.
En tout cas, vous êtes un bon vendeur.
Je ne sais pas. Je dis surtout la vérité.
En tout cas, vous vendez bien votre entreprise. Pourquoi est-il si important, Paul, d'acquérir sa résidence principale? C'est vrai que c'est l'un des premiers conseils qu'on donne aux Français, et de très jeunes d'ailleurs. On dit d'abord, avant toute chose, il faut acheter sa résidence principale. Est-ce que c'est un bon conseil?
Déjà, l'immobilier, comme vous le citiez dans la présentation, c'est le premier sujet de conversation des Français. Voilà, c'est le numéro un devant les voitures, le sport, etc. C'est l'immobilier. On va reprendre un peu de recul par rapport à cette question. On va se dire, c'est quoi les conditions pour acheter? Déjà, il faut être dans une situation stable. Pourquoi? Parce que 95% des achats immobiliers se font au travers d'un crédit. Donc, il faut être stable par rapport à une banque pour la rassurer par rapport au fait de pouvoir rembourser un crédit.
Donc, en fait, concrètement, il faut attendre d'avoir un CDI.
Idéalement. Après, on peut avoir aussi des emplois saisonniers qui durent, etc., être intermittent. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est sur la durée. Il faut prouver une certaine stabilité à la banque.
D'accord. Il faut avoir un historique. Il faut, par exemple, prouver 3 ans d'activité avec un chiffre d'affaires à peu près stable, par exemple.
Pour les professions libérales, par exemple. Moi, j'ai travaillé dans le 06, donc Nice, sur la Côte d'Azur. Les gens qui étaient, comment dirais-je, saisonniers, on arrivait à financer ces personnes-là parce que, du coup, elles faisaient ça depuis 5, 6, 7, 10 ans. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi acquérir sa résidence principale, il va y avoir déjà une réponse générale et après, je ferai 2-3 cas particuliers. Il y a 3 raisons. Numéro 1, parce que c'est sécurisant. Numéro 2, parce que c'est rassurant. Et numéro 3, parce que c'est bien entendu rentable. Alors, sécurisant, pourquoi? Mais déjà, rien que le dire, avoir son propre toit, ben, ça apaise. Ça calme, ça impose un petit peu. Et c'est surtout, c'est ne dépendre de personne. Aujourd'hui, la crise a chahuté, nos emplois du temps, a chahuté notre vie. Et on est un petit peu fébrile par rapport à tout ce qui peut être décidé pour nous.
Donc, en fait, ça permet d'avoir une stabilité.
Bien sûr.
D'être sûr de ne pas être lié à un propriétaire qui peut vous dire, au bout de six mois, vous devez partir parce que j'ai décidé de vendre le logement, par exemple.
Ou j'ai envie de le réhabiter, j'ai envie d'y mettre ma vie. Toutes ces choses-là, c'est un gage de stabilité, donc de sécurité. Et l'humain, il a besoin de sécurité. Très simplement, on ne l'a pas inventé, la pyramide de Maslow, les deux premiers besoins, primaire et sécuritaire, et bien, du coup, l'immobilier remplit ces besoins-là. Donc, le besoin de sécurité. Ensuite, c'est rassurant. Alors, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent quand même, parce qu'on capitalise pour soi. En fait, on commence à se créer son propre patrimoine. Et ça, c'est assez intéressant, puisque du coup, c'est un des objectifs des Français que tous les Français ont. Quand on commence également à créer sa propre famille, c'est-à-dire qu'on peut la protéger. Aujourd'hui, quand vous achetez de l'immobilier avec un crédit, il y a ce qu'on appelle par exemple une assurance décès-invalidité. Ça veut dire s'il nous arrive la moindre chose derrière, on a notre descendance qui est couverte. Et ça aussi, c'est une sorte de protection rassurante pour les parents. Et bien sûr, ça permet de préparer la retraite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le système de retraite par répartition est un petit peu challengé. On ne sait pas de quoi sera fait d'ailleurs ce système de retraite demain. Le fait d'avoir son propre logement, on ne dépend plus de rien. Pourquoi ? Parce que d'ici 20 à 30 ans, les loyers auront encore plus augmenté. Les retraites, elles, seront encore plus divisées. De fait, être dans son propre logement, ça rassure les personnes qui se construisent ce patrimoine toute leur vie.
D'accord. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir moins de dépenses de logement à un moment donné où on a une baisse de revenus. C'est-à-dire, l'idée, j'imagine que le but, c'est de finir son crédit quand on part à la retraite.
Par exemple, ça peut être une idée. Beaucoup sont à peu près axés sur ce timing-là, finir leur crédit aux alentours des 60-65 ans. Comme ça, après, ils peuvent être tranquilles.
Et en sachant que il y a quand même encore la taxe foncière à payer et bien puis sûr. Qu'on a tout intérêt à maintenir son logement en état. Parce que c'est vrai que souvent en fait on dit on a fini de payer le crédit et puis c'est bon. En fait, c'est un peu, il faut avoir en tête que de toute façon un logement ça coûte toujours.
Alors, le logement, c'est une source de dépenses, c'est une source de qualité, c'est une source de... On profite tous les jours, mais bien entendu, il faut l'entretenir, ce logement, pour les logements anciens, la chaudière, le chauffage, etc. Donc oui, il y a quand même un minimum de dépenses, d'où le fait de ne pas être locataire et prisonnier, des dépenses, et deux, d'un propriétaire qui décide un petit peu pour nous. Le dernier aspect, bien sûr, c'est un aspect de rentabilité. Alors là, je vais parler par rapport à aujourd'hui. Les taux sont historiquement bas. Aujourd'hui, on emprunte, alors c'est pas donné bien entendu, mais aujourd'hui on emprunte pour des taux qui sont en dessous de 15 ans, en dessous de 1%, et au-dessus de 15 ans, entre 1 et 1,8%. Aujourd'hui, c'est très très bas. Moi, j'ai commencé l'immobilier, les premiers taux sur lesquels je pratiquais, c'était 4 à 5%, et à l'époque où mes parents empruntaient, c'était aux alentours de 10%. Le fait que ces taux soient historiquement bas, ça permet d'avoir accès à des mensualités excessivement intéressantes. Numéro 2, il y a aussi une niche fiscale, il faut le dire aussi, la résidence principale, c'est une niche qui est non taxée sur la plus-value.
Si on vend et qu'on dégage une plus-value, c'est-à-dire qu'on la vend plus cher qu'on ne l'a acheté, en fait, pour être concret, eh bien la différence n'est pas taxée.
Non, alors que si vous faites ça sur un investissement locatif, il y a une partie qui est taxée en fonction du nombre d'années sur lesquelles vous avez gardé votre bien immobilier. Là, c'est à zéro. Donc ça veut dire que vous faites une plus-value. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier sur des longues durées augmente et de fait, vous gardez entièrement la plus-value pour vous. Et enfin, la troisième, c'est qu'aujourd'hui, l'État met à disposition une multitude d'aides. On va parler de prêt à taux zéro, de prêt accession, le PASS. On va parler de prêt action logement, ex 1% patronal. On va parler de prêt de certaines villes. Ça, c'est vraiment important parce que ça donne accès à la propriété à plein de personnes, à plein d'aides. Si on fait juste un petit focus, tout simplement, sur le prêt à taux zéro. Allez, on se dit, on est célibataire, on essaie d'acheter dans une ville qui est en zone A, puisque bon, il y a différentes zones. En général, un célibataire qui achète dans ces villes-là l'obtention d'un prêt PTZ à hauteur de 60 000 euros. Même avec des taux historiquement bas comme aujourd'hui, 60 000 euros de crédit, c'est 15 000 euros d'intérêt remboursé à la banque. Donc en fait, c'est une aide qui vous permet de ne pas donner à la banque, entre guillemets, ces 15 000 euros-là. Donc quand je disais que c'était rentable, oui, c'est excessivement rentable d'acheter de l'immobilier aujourd'hui. Au début, attention, je disais aussi que je faisais une réponse un petit peu générale. Maintenant, on va faire une réponse un petit peu particulière. Cette réponse ne s'adresse pas à tout le monde, à savoir les gens qui changent de job régulier.
Oui. Voilà. Qui sont nomades. On les appelle les nomades, qui professionnellement, en fait, bougent beaucoup.
Qui sont d'un côté de la ville de Paris, puis 2, 3, 4 ans après, de l'autre côté. Je ne sais pas, ils sont du côté de Toulouse à Balma, ils changent du côté pour aller chez Airbus à Tournefeuille, je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi vous parlez de Toulouse comme ça. Je ne comprends pas.
J'étais obligé de le dire, j'ai tout ça. Non, en fait, ces personnes nomades, est-ce qu'il faut qu'elles achètent leur résidence principale ? Des questions peuvent se poser, parce que si elles changent, entre guillemets, de job tous les 2-3 ans, tant que la situation n'est pas stable, on ne va pas forcément les orienter dessus.
On m'a dit qu'il fallait compter à peu près 5 ans pour rentabiliser les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire. Parce qu'on appelle les frais de notaire, en fait, ça s'appelle les droits de mutation. Oui. Mais qu'en fait, grosso modo, faut rester en fait 5 ans. Autrement, ça ne vaut pas le coup, pour faire simple.
Ça, c'est une réponse qui peut... Oui, avoir une certaine généralité. Après, les frais de notaire dans le neuf sont 2%, oui. Donc ça peut se rembourser plus vite. Mais si on devait donner une idée, 5 ans, oui, ça peut être une idée. Et dernière chose, je prends un exemple, puisque là, du coup, aujourd'hui, on fait l'interview à Paris. Bien sûr, Paris, les gens qui veulent habiter en hypercentre parisien, par exemple, puis aujourd'hui, pour louer un deux pièces, vous allez compter dans un deux pièces un peu sympa, 1 500 euros. Si vous souhaitez acheter cet appartement, toujours au même endroit, vous allez avoir des mensualités entre 2 000 et 2 500 euros. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter quand on est parisien ? Pas forcément. Et du coup, on a une clientèle de report, en fait, qui reste locataire de sa résidence principale pour ces conditions-là. Par contre, en parallèle, elles font des investissements locatifs en province où le prix est beaucoup plus accessible, et ce qui fait un petit peu de teasing pour l'interview de demain autour de l'investissement locatif.
Tout à fait. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on peut faire l'investissement locatif sans forcément être propriétaire de sa résidence principale. En fait, c'est ça que dans certains cas, que dans certaines villes où les prix sont tendus, comme on dit, oui. Ça vaut presque plus le coup d'être locataire dans sa ville d'habitation, et puis de faire un investissement locatif dans une autre ville moins chère.
Tout à fait. Les banquiers en sont conscients. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de dossiers de personnes qui habitent Paris signés sur des achats, ce qu'on appelle transverses, soit dans leur région d'origine, soit dans des villes en plein essor. On parle de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice, Lyon, Nantes et Lille, Strasbourg et autres, tout simplement pour commencer à se créer un patrimoine immobilier et pas perdre de temps.
D'accord. Et en plus, ça peut être éventuellement la résidence pour les vieux jours. Éventuellement.
Peut-être,
ça peut être ça.
Il y a une grande visibilité, mais tout à fait, ça peut être.
D'accord. Vous avez parlé effectivement des taux d'intérêt qui sont au plancher, oui. D'où l'intérêt, sans être redondant, d'acheter de l'immobilier, puisque ça permet effectivement d'acheter sur des périodes plus longues aussi, oui. Et d'avoir des mensualités plus faibles. Est-il possible aujourd'hui, en 2021, d'emprunter sans apport ?
Alors, je vais faire une réponse de Normand, avec l'accent du Sud. Alors, c'est faisable, oui, mais ça reste de plus en plus rare de nos jours. Je m'explique. Si vous avez un dossier béton, vous avez des comptes en banque qui sont bien remplis, vous avez une assurance vie un petit peu remplie, etc., bien sûr, votre banquier va avoir pas mal de feux verts pour vous accorder cette demande-là. Après, si on reste, on va dire, un petit peu dans une certaine normalité, aujourd'hui, les banquiers vont quand même demander une chose, au moins de venir avec les frais de notaire. Ce qui fait d'ailleurs un avantage dans le neuf. Pourquoi ? Les frais de notaire étant maximum entre 2 et 3% du bien immobilier, de fait, il n'y a pas besoin de venir avec beaucoup d'apports. Mais oui, c'est faisable, mais ça reste quand même relativement rare. Et ce qui me permet de faire une petite digression, puisque, en fait, comme je vous disais, le socle chez Cogedim, en fait, c'était le produit, le collaborateur, mais le client. Et du coup, à l'écoute de ce marché qui a changé, puisque l'année dernière, les taux se sont un petit peu resserrés, sont contractés, Cogedim a mis une offre en place qui s'appelle « Booste votre apport ». Et ça correspond tout simplement à quoi ? Ben, c'est Cogedim qui donne de l'argent aux clients, entre guillemets, par un système à l'achat. Et en fait, c'est considéré comme de l'apport pour le client. Donc, ça veut dire que le banquier voit venir le client avec l'apport du client et Cogedim, à côté, donne un petit complément. Donc, ça allait jusqu'à 7000 euros, par exemple, 7200 euros pour les 5 pièces.
Mais le complément, il est soumis à un taux d'intérêt ?
Non, le complément est venu et est apporté comme une sorte d'apport par le client. Donc, le banquier ne voit pas arriver avec un client. Imaginons, le client avait 7000 euros d'apport. Eh bien, le banquier voit arriver le client avec 7000 euros d'apport du client plus 7 de Cogedim, ça veut dire 14000.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas un cadeau de Cogedim, ben, donc il faut bien le rembourser. Donc au final, c'est plus cher sur le temps, c'est ça en fait, si c'est sur le temps ?
Alors, c'est pas comme un cadeau, mais vous savez, des fois les promoteurs sont dans certaines campagnes, offrent les frais de notaire. D'accord. Mais c'est exactement la même chose. Au lieu d'offrir les frais de notaire, Cogedim offre de l'apport.
D'accord. Donc effectivement, des taux bas, mais des conditions d'octroi peut-être un peu plus difficiles. En gros, quand on est primo-accédant, on a vraiment intérêt à avoir un apport financier.
Il faut montrer patte blanche.
Ouais. Ou, du moins, par exemple, accepter de faire des placements chez le banquier, que d'une contrepartie, si j'ai bien compris.
Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Souvent, le banquier va demander une rapatriation des comptes, du moins des salaires, va demander peut-être d'ouvrir une assurance vie, va demander de prendre la propriétaire non-occupant quand c'est un investissement locatif. Oui, il y a toujours une petite partie de négociation, mais c'est faisable quand même.
D'accord.
D'ailleurs, on voit accéder à la propriété de plus en plus de jeunes personnes.
D'accord. D'accord. Est-ce que c'est rentable d'investir dans l'immobilier locatif ?
Oui, mille fois oui, pour les mêmes raisons que je viens de vous citer précédemment. Et je vais doubler le côté rentable de sécurité et surtout de simplicité. C'est ce qu'on appelle un placement bon père de famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en bourse. Hein. Il n'y a pas besoin. La bourse, c'est super intéressant, c'est très compliqué. On peut passer des belles nuits blanches après avoir entendu des informations le vendredi soir et en étant off tout le week-end. C'est un placement beaucoup plus sécuritaire. Pour les raisons suivantes, le bien immobilier, en fait, il prend de la valeur. Très simplement, si vous regardez la courbe de l'immobilier en France aujourd'hui, sur les 30, 40, 50 dernières années, aujourd'hui, les biens, ils n'ont fait que croître.
Alors, il y a eu des cracks.
Voilà, de temps en temps.
On se souvient quand même des années 90, une baisse de 50% d'un coup. Donc, ça s'en souvient quand même bien.
Mais entre 1970 et aujourd'hui, vous avez vu que ça a totalement explosé. Et là, les derniers mois ont montré que même pendant la crise, ça a un petit peu explosé. Enfin, ça a continué d'augmenter. Là, il y a une légère stagnation. Mais sur la durée, l'immobilier, tout sera toujours gagnant de toute manière. Deuxièmement, on parlait des taux historiquement bas et des gains par rapport à ces baisses de taux. Et le troisième, c'est un loyer, en fait, tout simplement, qui paie une grande partie de tout ça. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui capitalise pour vous. Donc, tout à l'heure, on prenait l'exemple des jeunes parisiens qui capitalisaient pour des propriétaires, mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que vous mettez à l'intérieur de votre appartement une personne qui, en grande partie, va tout simplement rembourser le prêt immobilier. Quand nous, on fait tourner des simulations, puisque du coup, en plus, on peut adosser ça à des dispositifs d'aide fiscaux, on parle aujourd'hui de dispositifs Pinel, par exemple, de loi Pinel, on se rend compte que, par exemple, sur une dizaine d'années, avant de revendre son bien immobilier, la réelle mise du propriétaire est de l'ordre de 20 à 30%. Ça veut dire que 70% du crédit, intérêt compris, charges compris, taxes foncières compris, a été payé par un locataire. Si ça vaut pas le coup d'emprunter en ce moment.
Alors, à condition que le locataire paye les loyers.
Bien sûr.
Et qu'il n'y ait pas de vacances de location.
C'est une solution sine qua non, mais ce qui me fait aussi faire une petite digression. Aujourd'hui, par exemple, plein de personnes et plein de sociétés sont parties dans ce créneau-là. Et la société Cogedim propose justement ce qu'on appelle des assurances de loyers impayés, de vacances locatives, de carences locatives, limite jusqu'à la dégradation. Ça veut dire que si votre locataire, par exemple, ne paie pas, à partir du premier jour, tout simplement, le propriétaire est remboursé du loyer. Donc, on a bien claqué tout ça.
Mais en fait, c'est rassurant. Ce sont des couvertures bien sûr payantes, donc ça fait baisser la rentabilité. Alors, on peut pas tout avoir. C'est comme toujours, on peut pas avoir la rentabilité et la sécurité. Faut faire un choix.
Il faut faire un choix, mais c'est un choix qui est quand même assez facile. Pourquoi ? Parce que quand vous payez justement ces assurances loyers impayés, par exemple, c'est ce qu'on appelle des frais. Et ces frais-là que vous dépensez, vous pouvez les déduire de vos impôts, ou du moins de vos revenus fonciers par la suite. Donc, au final, vous les payez d'un côté, mais vous récupérez une grande partie de l'autre. Donc le jeu en vaut largement la chandelle.
D'accord, parce qu'il faut effectivement rappeler que ce sont des revenus fonciers, que comme les revenus fonciers, il faut le déclarer et que ça rentre dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Tout à fait.
Donc il faut faire attention à ça aussi. On en a parlé, faut-il préférez investir dans le neuf ou dans l'ancien ?
Alors, dans le neuf ou dans l'ancien, ça dépend si on aime le goût du risque ou pas, ça dépend si on est sécuritaire ou pas. Alors, pour répondre à cette question, on va essayer d'y répondre sur 5 items. Ambiance cachée hypercentre, voilà, ça c'est le premier item. Là, si vous aimez la vieille pierre, si vous aimez les moulures, si vous aimez l'architecture empreinte de tradition, si vous aimez l'hypercentre, voilà, si vous êtes à la recherche d'une échoppe bordelaise ou d'un mât à Montpellier ou d'une lauragaise à Toulouse, bah, c'est sûr que le neuf, ça va être compliqué de répondre à cette demande-là. Même si, chez Cogedim, on arrive quand même à avoir des produits en hypercentre, je pense à la polyclinique Rambaud à côté du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, au quai Saint-Pierre du coup à Toulouse, ou alors à l'air du temps à Paris Intramuros, ça reste assez rare d'être en hypercentre dans les vieilles villes. Donc ça, plutôt vers l'ancien. En parallèle, le neuf, ce qui va dominer, c'est plutôt la raison, c'est-à-dire la fonctionnalité, le côté lumineux, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'ouverture dans le neuf. Hein. Ça manque certes de personnalité, souvent c'est ce qu'on entend, mais aujourd'hui, on voit pas mal de choses, il faut juste traîner sur Pinterest. Moi, j'étais invité à une crémaillère, juste avant le Covid, d'anciens clients. Tout simplement, ils avaient réalisé un truc de dingue, on n'aurait jamais cru que c'était un logement neuf, mais tout simplement, en traînant sur Pinterest, ils se sont donné des bonnes idées. Donc oui, maintenant, même le neuf peut même avoir un petit peu de cachet. Et pour continuer, le neuf, l'intérêt également, c'est le côté écologique. Voilà, le côté écologique, aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont aux normes RT 2012. Demain, il y aura une norme supplémentaire. Ils se construisent en bas carbone. Bon, voilà, le côté écologique est sacrément bien porté dans le neuf. Et enfin, le côté domotique. Les geeks, les accros de toute la domotique, le neuf, c'est un plaisir.
Ouais. Oui, alors c'est vrai que l'écologique, c'est aussi l'économique. C'est-à-dire que souvent, c'est des logements qui sont mieux... qui sont moins des passoires thermiques, pardon, que les vieux bâtiments. Donc ça compte, hein, tous les mois, la facture de gaz, la facture d'électricité. Il y a des normes de plus en plus strictes, effectivement, notamment à la location et bien sûr, on pense bien sûr à la revente. On voit bien que le gouvernement est en train de réfléchir pour justement éliminer les passoires thermiques, à imposer des normes. J'imagine que là, c'est pareil. Il y a une prime au neuf, quelque part.
On achète le neuf un petit peu plus cher, mais du coup, on s'y retrouve dans le temps. Vous parliez de charges, c'était mon deuxième item. Aujourd'hui, si vous voyez à peu près un fonctionnement d'un bien immobilier neuf, en termes de charges de copropriété, vous comptez 1,50€ par mètre carré, vous avez à peu près le prix. Quand vous êtes dans l'ancien, vous êtes à peu près à 2,50€, donc 1€ de plus par mètre carré. Souvent, les logements anciens sont un petit peu plus grands, hein, puisqu'ils ont des fonctionnalités différentes, ils sont plus trop conçus dans l'air du temps, donc du coup, un peu plus grands. Ça veut dire que sur un 3 pièces, assez rapidement, hein, de 60 mètres carrés dans le neuf et de 66 mètres carrés dans l'ancien, vous allez avoir une différence de charge d'environ 70€ par mois. Donc du coup, 70 x 12, 840, ça veut dire que sur chaque année, entre guillemets, il y a une différence de 840€ de charge. Et si on parle dans les charges aussi, la partie notaire, on en parlait tout à l'heure, 2 à 3% dans le neuf, 7 à 8% dans l'ancien. Donc là aussi, il y a une perte concernant ces charges-là. Donc ça, c'était le deuxième item. On peut parler des plans et des prestations. Donc dans l'ancien, vous allez avoir souvent des surfaces qui sont dites un peu plus grandes, avec par contre des travaux, souvent, ça va rester dans son jus. Donc ça peut être assez sympa si vous êtes du métier ou si vous avez des gens de confiance du métier. Donc ça, vous pouvez faire de très belles choses. Sinon, pour ceux qui sont plutôt pas forcément du métier et qui cherchent un petit peu le côté rassurant, vous avez le neuf. Et là, il y a les avantages du neuf, c'est des logements hyper optimisés. C'est surtout des parkings aussi, puisqu'on parle pas trop de parking dans l'ancien, malheureusement, dans le neuf de parking. Avec la crise qu'il y a eu actuellement, tout le monde s'est retrouvé sur les balcons. Il y a plein de logements qui n'ont pas de balcon dans l'ancien. Chez Cogedim, 95% de nos logements ont des balcons. Et on n'est même pas arrivé à 100% parce que il y a beaucoup de studios qui n'en ont pas, mais si on enlevait les studios, on serait quasiment à 100% de nos logements avec des balcons. Donc ça, c'est assez intéressant. Et enfin, pour finir, l'architecture d'intérieur de nos logements aussi sont conçues autour du bien-être dans le neuf, puisque voilà, les surfaces répondent à des envies qui ont changé. Et on a Marie-Catherine qui s'occupe du coup de l'architecture d'intérieur chez nous, et on arrive à faire des logements hyper optimisés, hyper carrés pour des surfaces un peu plus petites.
Bravo Marie-Catherine.
Tout à fait.
Moi, on m'avait toujours dit, à la limite, c'est peut-être une question de résidence principale ou même d'immobilier locatif, qu'il y avait trois règles dans l'immobilier. C'était l'emplacement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que, en fait, le prix immobilier, c'est 80% de foncier ?
Alors, les trois règles de l'immobilier, l'emplacement, 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 je ne vais pas vous contredire, Jean-Philippe, c'est exactement ça. Après, on va juste prendre un petit peu recul avec ça, il faut se faire plaisir. On achète un bien qui doit nous plaire. Donc du coup, il faut être dicté, bien sûr, par se dire peut-être un jour, il y aura une potentielle revente de ce bien-là. Cependant, il doit nous plaire pendant quelques années. Donc oui, l'emplacement est important, mais c'est surtout se faire plaisir. Si on doit se faire plaisir dans l'ancien, allons dans l'ancien. Si on doit se faire plaisir dans le neuf, allons dans le neuf. Voilà, mon leitmotiv, c'est se faire plaisir. C'est l'achat quasiment d'une vie. Ouais, donc du coup, il ne faut pas se poser 10 000 questions.
D'accord. Après, il faut avoir quand même en tête, parce que c'est vrai que nous sommes parisiens et qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a toujours des plus-values. Il y a plein de coins de France où les gens n'arrivent pas à vendre leurs biens, ou alors ils le vendent avec une moins-value. Il faut aussi l'avoir en tête. C'est-à-dire que, OK pour un choix, mais il faut assumer son choix jusqu'au bout, et peut-être que la fameuse ferme retapée loin des villes et loin des transports, on peut se dire qu'on va avoir peut-être des difficultés à la revendre, et que si on la revend, peut-être qu'on la revendra moins cher que ce qu'elle nous a coûté.
On ne citera pas de région. Du coup, on va rester sur le global, mais je vous confirme, oui, il faut que l'emplacement nous plaise, il faut que le bien nous plaise, mais il faut quand même se dire que peut-être un jour, il y aura une potentielle revente, et il faut que ce bien-là puisse convenir à d'autres personnes. Donc du coup, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Cogedim construit des logements proches des villes, proche des centres-villes, sans être forcément tout le temps en hypercentre, comme je disais, parce que oui, plus vous êtes proche de la ville, plus vous avez de chances d'attirer de plus en plus de personnes derrière, tout à fait, pour leur acheter,
bien D'accord, sûr. Donc il faut se faire plaisir, mais il faut peut-être avoir ça en tête, quand même, voilà, c'est important. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant à la séquence questions des internautes, puisque comme vous savez, il y a la possibilité, et c'est tout l'intérêt de Live Invest, c'est tout l'intérêt du live sur Internet, les internautes ont la possibilité, grâce au chat, de poser en direct des questions à nos experts. Alors, est-ce qu'il y a un petit jingle avant ? Non, alors on me fait signe que non. Eh bien voilà. Alors, première question, il y avait le... à partir de quel âge est-il conseillé d'investir dans l'immobilier ?
À partir de quel âge ? 18 ans et un jour. Feu, de suite, direct. Sérieusement, dès que possible. Vous citiez tout à l'heure, alors c'est une très bonne question, le fait d'acquérir de l'immobilier de plus en plus jeune. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai vécu quand j'étais conseiller commercial. J'ai vu des gens de plus en plus jeunes arriver en espace de vente. Je me rappelle que mes premières ventes en termes d'âge, ils avaient 20-22 ans. Pourquoi ? Très simplement, numéro un, parce que du coup on peut faire des crédits longs, contracter des crédits longs, donc plus c'est long, moins la mensualité est importante.
Oui, on a non seulement une meilleure espérance de vie, mais en plus une meilleure espérance de vie en bonne santé. Rassure le banquier. Donc le banquier va être plus prompt à accepter un crédit sur 20 ans, sur 25 ans.
Tout à fait. Et en plus, avec des assurances réduites. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est que vous avez plus de chances encore de bénéficier des aides d'État. Mmh. On parlait du prêt à taux zéro tout à l'heure. Bien sûr, on peut en bénéficier beaucoup plus facilement. Plus on commence vite... du coup, plus on pourra faire de biens immobiliers, plus on pourra acheter de biens immobiliers.
Oui, parce qu'en fait, c'est une stratégie par escalier. En fait, c'est ça, on achète d'abord un studio. On est célibataire sans enfant, donc on prend un studio. Oui. Et puis on se met en ménage, là, on va vendre le studio, puis on va acheter un F2, mettons. Et puis après, la famille s'agrandit. Enfin, on a des enfants, et grâce au F2, on le vend, et puis on va pouvoir avoir un F3, par exemple.
Et le cash généré devient de l'apport pour le troisième appartement. C'est ce qu'on appelle souvent un achat tremplin. L'immobilier, par exemple, moi, j'avais plein de petits jeunes qui venaient 20-25 ans, qui achetaient en résidence principale, du coup grâce aux aides de l'État, qui resteront sûrement quelques années, ils vendront, ils récupéreront du cash et ils achèteront plus grand, ce qu'on appelle un achat tremplin. Et d'ailleurs, ces aides, elles sont très particulières, elles dépendent du foyer, du nombre de personnes, des revenus des personnes, de l'endroit dans lequel vous avez acheté. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'appeler le 09 70 255 255 et vous tomberez sur les conseillers Cogedim, Félix, Jean-Marie.
Vous êtes terrible, vous êtes terrible. Quels sont les critères pour bien investir dans l'immobilier ? Enfin, on en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est pas mal de les rappeler, de les...
Le premier, l'emplacement, vous l'avez dit. Le deuxième, je vous l'ai dit, le se faire plaisir. Après, du coup, si on devait en citer d'autres, restons factuels. On parlait de bien à la projection à la revente, donc avoir des transports pas loin, des commerces pas forcément, mais des transports oui.
Les écoles.
Alors c'est sûr que si on est sur un studio en deux pièces, pas forcément, mais sur un 3 ou un 4, oui, parce que potentiellement, vous allez avoir des familles derrière, les ouvertures, des balcons, des places de parking. Enfin, il n'y a pas une bonne réponse à tout ça. Il y a un listing à se faire et ensuite à jauger ce qui l'est ou ce qui l'est moins. Mais voilà, en tout cas, ça dépendra de chacun. Mais il n'y a pas une solution miracle à cette réponse-là.
D'accord, mais j'imagine qu'il faut bien connaître, que ça soit pour la résidence principale ou pour que ça soit l'immobilier locatif,
oui.
Il faut bien connaître l'endroit, il faut y aller souvent, il faut se renseigner, il faut, voilà, pour connaître... c'est par exemple s'il y a de l'insécurité ou pas, des choses comme ça.
Alors pour la résidence principale, bien entendu, puisqu'on va y vivre tous les jours, donc là il faut vraiment que ça nous plaise, donc je suis 100% d'accord avec vous. Sur l'investissement locatif, il faut juste prendre un petit peu de recul. Ça veut dire qu'il faut rester très factuel sur l'investissement locatif, sinon on ne fait jamais rien. Il faut regarder justement tout ce que vous disiez, mais sans trop se prendre la tête. Voilà, parce qu'à un moment donné, cet appartement, il sera loué, quoi qu'il arrive à une personne. Parce que c'est sûr et certain que vu comme le marché est aujourd'hui tendu, on arrivera à trouver une personne pour votre appartement. Après, voilà, il faut juste jauger et là, pas trop être, pas rechercher le mouton à cinq pattes, du moins pour l'investissement locatif, c'est sûr.
D'accord. Faut-il faire évoluer son bien immobilier en prévision de son entrée dans le troisième âge ? J'imagine que ça, c'est un internaute plutôt senior, mais c'est vrai que c'est une question que se pose ou que peut-être devraient se poser de plus en plus les Français avec l'allongement de l'espérance de vie. On se rend compte que effectivement, on essaie de rester le plus longtemps à domicile. Est-ce qu'il faut adapter son logement ? Est-ce qu'il faut avoir en prévision ce troisième, voire quatrième âge ?
Bien sûr. Alors, ça dépend des âges, bien sûr. Si vous achetez à 20-22 ans, bon, vous n'avez peut-être pas forcément pensé à ça. Mais en tout cas, plus vous vous rapprochez de la retraite, plus il faut y penser, en effet. Nous, on a une clientèle, ce qu'on appelle un petit peu de report, qui habitait justement ces maisons un petit peu éloignées des centres-villes, qui vendent ces maisons pour acheter des logements en hyper-centre, pour de multiples raisons. Mais le neuf, c'est sécurisant. Voilà, il n'y aura pas de travaux pendant une dizaine d'années. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une décennale, il y a une biennale qui couvre votre bien immobilier. Mmh. Donc ça, quand on est quand même une personne qui approche de la retraite, on n'a plus trop envie de se prendre la tête, donc ça, c'est vachement important. Le numéro 2, c'est qu'on a des logements qui sont PMR, aux normes PMR, personnes à mobilité réduite. On l'espère pour personne, mais il se peut qu'un jour, bah, du coup, voilà, on puisse être en fauteuil roulant ou que sais-je.
Donc ça fait partie des nouvelles normes. Ouais. En fait, les logements neufs doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tout à fait. Vous avez déjà des ascenseurs qui desservent tous les étages. Vous avez des couloirs qui sont un petit peu plus larges pour laisser passer des fauteuils. Vous avez des WC où le fauteuil à côté du WC peut faire le tour. Idem pour la chambre principale. Oui, c'est un confort. Maintenant, on vend même des packs seniors avec des rambardes de douche, avec des chemins lumineux qui amènent... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et là, l'immobilier neuf, par contre, répond totalement à ça.
D'accord. Voilà. Et c'est à partir de quel âge, en fait, qu'il faut basculer ? Parce que j'imagine que, c'est sûr que vous l'avez dit, à 20 ans ou à 30 ans, on va pas penser à sa perte d'autonomie. En revanche, j'imagine qu'il faut, faire la transition peut-être pas trop tard, parce qu'il y a un âge où ça peut être perturbant d'investir, de changer de cadre de vie, de déménager, de faire des choix. À quel âge, en fait, il faut le faire, ce basculement ?
Alors, il y a deux manières. Hein. Soit vous habitez justement ces fameuses maisons un petit peu, ou ces appartements un petit peu éloignés, ou sans ce confort-là, et vous vendez votre appartement pour acheter du neuf avec ces normes-là. Donc ça, c'est au dernier moment, entre guillemets, à l'âge de la retraite. Soit, de plus en plus de personnes, sur les coûts de 40, 45, 50 ans, font des investissements locatifs type Pinel, se projettent dans leurs deux pièces ou trois pièces, vont le laisser allouer pendant un certain nombre d'années, et in fine, récupéreront ce bien pour l'habiter eux-mêmes. Donc souvent, on a cet achat rentable, mais aussi cet achat prévisionnaire de se dire, voilà, je vais prendre une résidence. Beaucoup de Parisiens qui prennent des résidences à Nice ou à Toulouse ou à Bordeaux pour se dire que leurs vieux jours se feront dans ces villes d'hypercentre, enfin, dans ces grandes villes en hypercentre avec les normes PMR.
D'accord, donc ils s'y voient vivre un jour.
Oui.
Donc c'est un investissement locatif un peu particulier.
Voilà.
D'accord.
Il y a un peu d'affect qui s'y met. C'est toujours un petit peu plus dur de trouver le bien, mais c'est normal.
D'accord. Alors, on a une longue question d'un internaute. Alors, je vous la lis en entier. Quelles sont les meilleures structures à mettre en place pour optimiser le montage des investissements immobiliers locatifs et éviter l'assommoir fiscal ? Alors, c'est moi qui le mets entre guillemets. Et il précise, entre parenthèses, je parle des structures juridiques, SCI ou autres, et non des dispositifs type Pinel, LMNP. On en parlera ça plus tard, d'ailleurs, demain.
Tout à fait. Oui. Alors, je ne connais pas la situation patrimoniale de ce monsieur. L'idée, déjà, c'est qu'il faut qu'il rencontre un conseiller de confiance qui lui fasse ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Parce qu'en fonction de savoir s'il a 15 appartements, s'il en a 2, s'il a 8 enfants, s'il en a 1, s'il est célibataire, s'il est marié, si sa dame ou son monsieur a des revenus plus ou moins importants, Ça dépend des personnes. Les SCI, oui, ça peut être super intéressant dans certains cas. SCI à l'IR, SCI à l'IS. Le LMNP, loueur meublé non professionnel, géré avec récupération de TVA ou en amortissable classique peut être aussi très intéressant. Tout ça, bah, du coup, il faut rencontrer un conseiller. Tout à l'heure, je donnais le numéro de téléphone. Mais oui, sincèrement, appelez. On vous fera un bilan patrimonial gratuit et surtout, on vous expliquera ce qu'il faut faire dans votre situation. Tout ce que vous avez cité, c'est très judicieux, mais je ne sais pas si aujourd'hui ça vous convient, hein, puisque je ne vous connais pas.
Alors, que pensez-vous de l'intérêt des gestionnaires pour bailleurs ?
Alors du coup, à titre personnel, ça me touche un peu moins, puisque du coup, moi, je suis dans le particulier. Donc ça, je laisserai répondre les professionnels à cette question. Je suis désolé, je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est gestionnaires pour bailleurs ?
C'est quoi qu'il a derrière...
Alors non, il y a juste, entre parenthèses, intérêt pratique et ou intérêt financier. Je ne peux pas vous en dire plus.
Alors, est-ce qu'on parle de bailleurs dans les résidences gérées ? Est-ce qu'on parle dans les résidences sociales ? Je ne peux pas vous dire, là, j'ai aucune idée.
D'accord. Est-ce que c'est tout simplement les agences immobilières, peut-être, tout simplement ? Alors, si ça peut être tout simplement
si ça. Sont les agences immobilières, oui, il y a toujours un intérêt. Alors, il y a des gens qui trouvent un intérêt à le gérer par eux-mêmes parce qu'ils ont du temps. Voilà, et ça demande beaucoup de temps. Ils s'y connaissent un peu en bricole, souvent dans l'immobilier ancien. Voilà, s'ils n'ont pas trop de temps, il y a des professionnels qui sont faits pour ça. Les frais, comme je le disais tout à l'heure, sont déductibles de vos revenus fonciers. Pour moi, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut laisser la place aux pros. Oui,
d'autant que si vous êtes loin, par exemple, là, vous avez pris l'exemple des Parisiens qui vont investir à Nice.
Oui.
C'est quand même peut-être mieux d'avoir quelqu'un sur place, de faire les états des lieux,
bien sûr,
de te faire visiter.
Il ne faut pas se prendre la tête. Les frais sont déductibles de vos revenus fonciers. Ce sont des professionnels aguerris qui connaissent le secteur, qui vont vous louer par le bouche à oreille. Il n'y a pas de souci avec ça, prenez le pro.
D'accord. Quel est, en pourcentage, l'avantage d'être propriétaire et non locataire ? Alors, en pourcentage, j'imagine que... quoi, c'est par rapport aux revenus, je pense, j'imagine, je ne sais pas. Hein, je vous lis les questions telles que je les reçois.
Je vais vous donner, si vous voulez, les chiffres de FPI de l'année dernière pour vous dire grosso modo qu'il y avait 50% de résidents dans l'achat immobilier neuf en 2020. J'arrondis, mais 50% des biens se sont vendus en résidence principale, 50% se sont vendus en investissement locatif, alors peu ou prou, à peu près ça. Ça a la tendance chaque année. Donc voilà, je peux dire juste ça si ça peut répondre à la question de cet internaute.
Oui, il y a un petit peu plus de la moitié des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Et ça grimpe un petit peu. Enfin, tous les ans, en fait, ça monte un peu. On sait très bien qu'on va arriver à un palier. Hein. Forcément, tout le monde n'a pas les moyens ou n'a pas l'envie d'être propriétaire de sa résidence principale. Mais on voit bien, et vous l'avez dit, hein, notamment les jeunes générations prennent le relais, et même de plus en plus tôt.
Elles prennent le relais de plus en plus tôt, mais surtout, et ça, c'est, on le prend pour nous, elles ne sont pas assez informées. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui ne connaissent pas l'effet de levier du prêt à taux zéro, on en est malheureux. Tout à l'heure, je parlais d'une famille avec deux enfants, c'est 120 000 euros dans une zone A, 120 000 euros de prêt à taux zéro, c'est un gain énorme. Eh bien, on a des dizaines, des centaines, voire même des milliers de familles qui ne savent pas les aides qu'ils peuvent avoir, et du coup, ils pourraient devenir propriétaires et pas rester locataires. C'est dommage.
Quel âge maximum pour acheter ?
Il n'y a pas d'âge. Si vous faites une revente, vous avez 75 ans, vous faites une revente, et du coup, vous encaissez de l'argent et vous achetez, vous pourrez acheter jusqu'à 100 ans, 120 ans, je suppose, en paiement cash. Je suppose que l'internaute parle avec un crédit.
Oui.
Du coup, le crédit, grosso modo, il faut le caler jusqu'à une durée de 75 ans. Ça veut dire que si vous avez 50 ans, vous pouvez prendre un crédit, grosso modo, sur 20-25 ans, ce qui reste quand même le borderline. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la banque va donner des assurances, va vous faire payer des assurances de plus en plus élevées. Donc, est-ce que là, il y aura un intérêt ? À vous de voir.
Oui, sans compter qu'il y a des assurances qui font des exclusions de garantie à partir de certains âges. Si vous avez des antécédents médicaux, c'est compliqué.
Ça devient compliqué. Donc, il n'y a pas d'âge, mais s'il faut les donner une limite, 75, c'est vraiment le max du max selon moi.
D'accord. OK. Alors, on parle de l'IFI.
Oui.
Alors, tous ces conseils, qu'est-ce que... Oui, par rapport à l'IFI... Alors, je ne peux pas vous dire plus. Hein, la question, c'est que deviennent ces conseils avec l'IFI ? Donc, l'IFI, on rappelle que c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui a quelque part remplacé l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui l'a remplacé le 1er janvier 2018. En gros, c'est un ISF, mais qui ne porte que sur l'immobilier.
Que sur l'immobilier, voilà. On nous a pas oublié, l'État nous a pas oublié sur cette petite taxe. Ça concerne quand même pas forcément beaucoup de personnes, donc il faut atteindre des patrimoines à hauteur de 800 000 euros. Une partie des résidences principales, si vous êtes sur des crédits, ne sont pas forcément taxés, etc. Alors, du coup, la question est assez floue, mais oui, les biens immobiliers, en tout cas, rentrent dans le calcul de l'IFI à partir du moment où ils sont 100% payés ou en fonction du prorata du capital restant dû. Oui, voilà, ça rentre dedans, d'accord. Mais bon, ça concerne pas énormément de monde.
Non, il faut avoir 1,3 million d'euros de patrimoine et il y a un abattement de 30% sur la résidence principale.
Tout à fait. Mais voilà, là, en l'occurrence, sans trop de données, c'est compliqué de pouvoir répondre. Mais en tout cas, il y a des placements qui existent, justement, pour les personnes qui sont à l'IFI, pour, entre guillemets, avec des placements en démembrement, pour améliorer un petit peu ça.
Bah, de toute façon, on va parler de défiscalisation. Ça va être justement demain.
Demain, 9h30.
Demain. vous faites tout le travail. Quoi. Vous faites même les transitions en fait, pour demain. Je vous rappelle que demain, effectivement, la thématique de la matinée sera comment réduire ses impôts. Bah, merci beaucoup, Paul Lassalle. Je rappelle que vous êtes directeur commercial France de Cogedim. Ça que vous travailler à Cogedim, on l'a bien compris. Hein.
Ouais,
je pense que je pense que vous l'avez bien placé. Et puis donc je vous dis à demain, parce qu'effectivement on va se retrouver demain à 9h30 aussi. Où là on va parler plutôt d'investissement locatif partiellement défiscalisé. Mais ça vous nous expliquerez tout ça. Merci beaucoup Paul. Et puis chers internautes, je vous donne rendez-vous dans 15 petites minutes. Pour parler. Eh bien j'ai un trou, mais on va le découvrir plus tard. Je crois qu'il y a des petites vidéos en attendant pour vous faire patienter sur effectivement le prochain atelier. À tout à l'heure. Merci.
Merci Jean-Philippe.
Live Invest. Le rendez-vous 100% digital des épargnants.